Gloire à Dieu, je chanterai au Seigneur. Y a-t-il quelque chose de plus merveilleux que cela? Prendre du temps pour louer le Seigneur, il se passe de quoi quand on est dans la louange de Dieu? Hein? Le Seigneur vient chercher sa louange, on lui donne. Il vient la chercher. Quand il est là, il se passe de quoi? Il est au milieu de nous. C'est là qu'il distribue des touches, particulièrement des rafraîchissements, des restaurations, des bénédictions, des guérisons, des délivrances. Il nous remplit de son Saint-Esprit. Il nous unit, il nous fortifie, il nous met de la joie dans nos cœurs, de la paix. On est heureux dans sa présence. Il n'y a pas de thérapie qui équivaut à cela. Il n'y a pas un film à TV qui équivaut à cela. Gloire à Dieu. De toute façon, nous sommes les témoins de ces choses. Tous ceux qui l'ont expérimenté le savent. Ils l'ont goûté. Il dit, sentez, voyez comment l'Éternel est bon. Amen. Il nous fait du bien puis restaure notre âme. On peut arriver ici en rampant, mais on ressort en sautant. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Il faut se réjouir dans ce sens-là, frères et sœurs, parce que c'est vrai. Moi, ça me fait du bien. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. Gloire à Dieu. On est en train d'étudier une étude dans le livre de Galates, des épîtres de Paul aux Galaties, pour faire un petit résumé bien court. La Galatie, c'est un livre dans la Bible, c'est une lettre que l'apôtre Paul a envoyée aux églises de Galatie, à plusieurs églises qui étaient dans la Galatie, que Paul avait fondée, en les amenant au Seigneur, en évangélisant, puis en rassemblant ces gens-là pour former une église, un noyau qui s'est accru, qui a eu une croissance, puis il y a eu d'autres membres, puis c'était mêlé de juifs et de païens, puis ils avaient tout accepté le salut par grâce, par le moyen de la foi, mais parmi les gens de la Galatie, mais c'était pas un problème qui était juste dans ce groupe d'église-là, c'était aussi ailleurs, mais Paul, il s'est servi de cela pour envoyer une lettre, pour clarifier ce sujet-là qui était dangereux, un sujet dans lequel les frères et sœurs commençaient à croire, de croire qu'il fallait obéir à la loi de Moïse pour être sauvé, de se faire circoncis pour les hommes, puis d'observer tous les principes de la loi pour être sauvé, quand qu'après que ces gens-là aient accepté Jésus pour être sauvé. Juif ou non-juif, t'acceptes Jésus pour être sauvé. C'est le seul moyen pour être sauvé, c'est le sang de Jésus qui nous sauve, c'est pas la loi de Moïse, puis c'est pas les religions. C'est la foi dans le Messie. Là, l'apôtre Paul, on a étudié le chapitre 1, puis là, on est rendu au chapitre 2, au verset de 11 à 14. Mais ceux qui ont manqué des bouts, vous pouvez aller sur mon site Internet et aller les écouter. Je me sers en lisant des petits bouts, puis à ressortir le plus bien, c'est sûr qu'il y a plus profond que qu'est-ce que je fais là, mais... Disons que je sors des bons arguments pour nous faire comprendre c'est quoi la vie chrétienne face, là comme là ce soir, face aux mensonges. Suite à la reconnaissance des ministères, parce qu'on a vu aussi la dernière fois que quand Paul raconte son témoignage pour les amener les Galatiens à croire que c'est juste en Jésus qu'on est sauvé, Paul a raconté son témoignage au début de Galate. Puis il raconte comment est-ce que les apôtres de Jérusalem avaient reçu Paul, puis l'avaient reconnu comme étant un apôtre envoyé vers les païens. Puis Pierre, lui, se disait envoyé parmi les Juifs pour prêcher le salut par la foi en Jésus. Il y avait une association entre les apôtres. C'était pas une guerre de clochers comme deux églises qui se confrontent. Donc, ça devrait pas exister quand c'est l'Église du Seigneur. Des guerres de clochers, c'est pas de Dieu. Si c'est des faux prophètes, comme d'autres religions, je comprends que là, il peut y avoir des combats de doctrine, des affaires-là, mais entre chrétiens, on est tous unis par la foi en Jésus. Là, suite à la reconnaissance des ministères puis l'association des apôtres, l'apôtre Paul, il continue son témoignage aux gens de la Galatie sur un combat spirituel qu'il a eu pour la vérité de l'Évangile, pour qu'elle soit maintenue. La vérité de l'Évangile. Paul va nous raconter dans son témoignage un combat spirituel qu'il a eu avec un des apôtres de Jérusalem. Ça va nous aider à comprendre un peu que Dieu fait pas de distinction de personne. C'est pas à cause que quelqu'un a un titre qu'il peut dire n'importe quoi ce qu'il veut. Même si nous formons une association avec quelqu'un, cela ne veut pas dire que nous devons tout laisser passer. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui est en train de se produire quand les gens retournent dans les églises catholiques avec l'œcuménique. C'est qu'on est tous, ils se disent, on est tous frères, donc on n'a plus de barrière, on tasse la Bible de côté, puis on est unis tout le monde. Mais ça, c'est pas biblique. On va le voir ce soir. Dans Galates 2, 11, où est-ce qu'on est rendu, l'apôtre Paul raconte, « Mais lorsque Céphas, ça c'est l'apôtre Pierre, Céphas, c'est le nom en grec qui avait été nommé par le Seigneur, lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face, parce qu'il était répréhensible. » Ici, on va regarder dans ce passage-là à l'infaillibilité des apôtres ou des papes ou des pasteurs. Dans ce texte-là, c'est en train de dire que l'apôtre Paul, il a résisté en face à l'apôtre Pierre parce qu'il était, il était répréhensible. Ça veut dire qu'il était en train d'y reprocher quelque chose qui allait à l'encontre de la sainte doctrine, de la parole de Dieu. Ça, ça nous parle pour dire comment est-ce que, comme qu'on a entendu dans l'Église catholique, qui dit que les papes sont infaillibles, qu'ils ne peuvent pas faire d'erreur, puis ils disent que les papes descendent de Pierre. Mais même Pierre, il était répréhensible, c'est ce que le texte nous dit. Ça n'existe pas une personne qui est sans reproche. Ça n'existe pas des irrépréhensibles. On vise la perfection, mais il n'y a pas personne qui est rendu parfait. Puis peu importe le titre que tu as, peu importe le grade que tu as, peu importe le nombre d'années dans le Seigneur que tu as, tu peux faire des erreurs, puis il faut que tu sois capable de les admettre. Il n'y a pas de gens qui sont vraiment à la stature de Jésus irrépréhensible. N'est qu'un comme cela, c'est Jésus. Il nous rend comme ça par son sang qui nous purifie, puis qui nous donne le titre d'être parfait. Mais on doit viser à être parfait. Fait que l'apôtre Pierre, il a fait de quoi qui était pas de Dieu. Il a fait de quoi qui était répréhensible. Puis en tant qu'apôtre, ça, il pouvait pas, l'apôtre Paul, lui, il pouvait pas laisser passer ça, parce que la faute que l'apôtre Pierre avait faite, c'était une faute qui allait directement contre la sainte doctrine. On va le voir tantôt. Mais on se sert de ce sujet-là. L'apôtre Paul, lui, on va le voir, il dit, ça compte pas. Dieu fait pas de distinction entre les personnes en disant, toi, t'as le droit de dire n'importe quoi. Non. Peu importe qui ce que nous sommes, faut toujours faire attention à ce qu'on prêche. On prêche-tu la sainte doctrine ou on prêche d'autres contraires, tu sais? Parce que tout ce qui est pas la sainte doctrine, c'est contraire. Ici, on va regarder à l'infaillibilité des apôtres. Mais dans les apôtres, il n'y avait pas de personne infaillible. Y a-t-il des gens qui ont atteint la perfection puis qui sont demeurés infaillibles tout le reste de leur vie? Dans la Bible puis dans la réalité de tous les jours? À part Jésus, il n'y en a pas. Moi, je ne suis pas parfait. Si vous voyez un défaut en moi, peut-être vous n'en voyez pas, ça se peut. Mais moi, je m'en allais dire, demandez à ma femme si j'en ai des défauts. Elle va vous le dire. Mais tu n'es pas obligé de lui faire une liste de tous mes défauts. Non, parce que je l'avoue, je le confesse, je ne suis pas parfait. J'espère que je ne déçois pas personne. Puis, on doit quand même viser à être parfait comme notre Père Céleste est parfait. Amen. Dans Philippiens, chapitre 3, le verset 12, on va voir un passage que l'apôtre Paul, lui, s'auto-évalue face à l'idée de la perfection. Il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. Voyez-vous, là, il dit, c'est pas que je l'ai déjà atteint, la perfection. Il savait bien qu'il ne l'avait pas atteint. comme tous les restes des apôtres, comme tout le reste des pasteurs d'aujourd'hui. Du monde parfait, il n'y en a pas. Il va toujours avoir quelque chose qu'on pourra reprocher à quelqu'un. Puis ça, c'est nous, on peut-être qu'on les voit pas, les péchés ou les mauvaises pensées ou les mauvaises paroles ou les ressentiments. Peut-être qu'on les voit pas, mais le Seigneur les voit toutes. On peut pas se péter les bretelles qu'on est supérieur. Même l'apôtre Paul, dans un verset, j'ai repris l'apôtre Pierre, mais lui-même, il est capable de s'auto-évaluer puis dire que lui, il l'a pas atteint la perfection. Mais, il dit, je cours pour tâcher de la saisir. C'est que tu l'as pas atteint, mais il faisait des efforts pour y arriver, pour que sa vie change, pour qu'il arrive à devenir parfait. C'est le but. Pour tâcher de le saisir. Puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frères et sœurs, je pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et puis me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but. Le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Voyez-vous, c'est, oui, je ne l'ai pas atteint, mais je cours pour l'atteindre, cette perfection-là. Puis pour y arriver, tu oublies ce qui est en arrière, puis tu te portes vers ce qui est en avant. On court vers un jour, on va être avec le Seigneur. Puis là, on va être parfait, comme j'ai dit tantôt dans le petit chant au début de la réunion. Après que vous aurez souffert un peu de temps, il va vous perfectionner, il va vous affermer, il va vous fortifier, puis il va vous rendre inébranlable. C'est sûr qu'il va y avoir des forces qui vont nous communiquer en chemin, mais le vrai but à atteindre, c'est le jour où on va être rendu l'autre bord avec Jésus, qu'on va être inébranlable. En attendant, on peut branler un petit peu. On n'est pas obligé de branler, mais on peut branler un petit peu. Mais il nous dit de ne pas être des roseaux agités par les vents. Il faut se fortifier pour que notre arbre soit plus solide un peu, qu'on est enraciné en Jésus. Amen. Et en sa parole. La Bible rapporte que Paul lui-même a aussi des problèmes de comportement. J'espère que ça... Parce que moi, dans mon évaluation, ça c'est une idée personnelle. Pour moi, je voyais jouer l'apôtre Paul, j'allouais. Mais Jésus, mais l'apôtre Paul, parmi les humains, je le vois comme un top. Mais il était pas parfait. Puis il en a fait des gaffes, lui tout. Dans un sujet qu'on regarde, dans Actes 15, 37 à 39, ça dit qu'il y a eu une chicane avec Barnabas, qui est un autre compagnon de Paul. Il y a eu une chicane assez, là, qu'ils ne travaillaient pas ensemble pendant un bout. Barnabas voulait emmener aussi Jean, surnommé Marc, mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie puis qui les avait pas accompagnés dans leur œuvre, parce que il avait déjà eu un voyage, il avait déjà emmené Marc, mais Marc il a lâché à moitié chemin, il est retourné chez eux. Fait qu'à l'autre voyage, il a dit, lui, il vient pas avec nous autres. Paul voulait pas le ramener. Mais Barnabas voulait le ramener parce que Marc, c'est un membre de la famille de Barnabas. Il voulait le ramener. Mais lui, il a dit non. La chicane a pogné entre les deux apôtres que ce dissentiment fut assez vif pour qu'il cause de se séparer. Ils se séparèrent l'un de l'autre. Puis Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. Là, ils se sont chicanés, puis là, Paul, il a pris une autre personne pour l'accompagner. Mais plus tard, dans les autres écrits, on voit qu'ils travaillaient encore ensemble, puis ils travaillaient avec Marc, puis il a même dit dans une de ses lettres, « Amène Marc, il m'est fort utile dans le ministère. » Fait qu'il y a eu des moments qu'il ne le reconnaissait pas, puis il y a l'autre moment qu'il le reconnaissait. Voyez-vous, les idées changent dans la vie d'une personne. On chicane, on a des dissentiments. Des fois, on se sépare, mais on revient ensemble. Mais ça, c'est pour tout ça, c'est pour démontrer qu'il n'y a pas de personne parfaite. Les apôtres n'étaient pas parfaits. Comme les pasteurs sont pas parfaits, il y a juste Jésus qui est parfait. Mais il faut quand même viser à devenir parfait. Des infaillibilités du pape, ça n'existe pas. C'est un mensonge. C'est non biblique. Même si le pape est dit descendre de Pierre lui-même puis il se déclare infaillible, mais c'est faux. Parce que même Pierre était dans l'erreur, puis c'est ce qu'on va voir tantôt. L'enseignement de Paul nous enseigne Ah oui, avant, juste une autre phrase. Doit-on reprendre ceux qui ont de fausses doctrines dans l'Église ou on doit les laisser faire? Parce que l'argument, c'est à cela. Là. C'est quelque chose que l'apôtre Pierre a fait qui fait que ça l'a amené une brouille parmi les chrétiens, puis il y a eu de l'hypocrisie, il y a eu toutes sortes de... Puis ça peut même aller contre la pensée biblique, on va le voir tantôt. Mais quand ça arrive des choses graves, là, je parle pas des petits détails personnels, là, si l'autre, il te dit quoi de travers, une petite parole, des petites affaires humaines, là, ça, on parle pas de toujours être en train de se reprendre pour des petits détails humains, mais pour les choses de doctrine, on doit rester ferme dans ce qui est écrit, puis on doit défendre la sainte doctrine. On ne doit pas laisser de fausseté entrer dans nos idées, surtout sur le salut, là, puis tous les points de doctrine qui vont avec dans la biblique. L'enseignement de l'apôtre Paul nous enseigne de reprendre quand cela se passe dans l'Église, des choses qui sont proclamées. Mettons, c'est un ouvrier viendra prêcher. Il prêche de quoi qui n'est pas biblique. Moi, mon devoir, c'est de ramener cela par après. On n'est pas obligé de faire un scandale tout le temps. Là. Ça dépend c'est quoi. Là. Mais pas obligé. Mais c'est sûr, je vais vous le réexpliquer. C'est quelque chose que je ressens, que c'est pas clair ou c'est pas biblique. Je vais vous répéter ce sujet-là en l'expliquant. Pourquoi? Parce qu'on ne doit pas laisser ça. Je ne suis pas en autorité pour y dire, comme l'apôtre Paul, c'était un apôtre, il était en autorité sur les églises. Je ne suis pas en autorité sur les églises. Mais ici, on doit faire attention parce que c'est ici qu'on vit, nous autres. Puis qu'on doit garder les pensées qui sont écrites dans la parole. Fait que, dans Tite 1, les versets 10 à 11, ça nous dit, là c'est l'apôtre Paul qui parle, il y a en effet... Surtout parmi les circoncis, parce que les circoncis, quand il dit ça, c'est des juifs chrétiens. Parmi les chrétiens, il dit, il y a parmi les circoncis beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. Ça veut dire qu'il y avait des sujets de conversation qui étaient mentionnés pour des gains honteux. Que des Juifs rebelles dans l'Église qui ils répandaient ça parmi les familles. Puis là, il dit, il faut leur fermer la bouche. Quand ça se passe dans l'Église, il faut leur fermer la bouche. Il y a un autre verset qui dit « Ceux du dehors, Dieu les juge. » Nous autres, on s'occupe de ceux du dedans. Souvent, nous pensons que nous ne devons pas juger. Parce qu'on l'entend souvent, c'est « Oh, tu ne dois pas me juger. Tu me juges, là. » En réalité, quand tu reprends, parce qu'il y a plein de versets qui nous disent de reprendre, quand tu reprends, c'est pas pour le juger, pour le condamner. Tu l'analyses pour l'édifier, pour l'aider à s'en sortir, puis revenir dans la vérité. C'est ça qui est la raison. Parce qu'il y a deux sens du mot juger. Il y a juger dans le but de taper quand un juge donne sa sentence, c'est t'es condamné, il peut rien en faire avec toi. T'es tard. Ça, c'est le mauvais côté. Mais juger dans le sens d'analyser, parce que le juge, avant qu'il dise son verdict, il a analysé toute la situation. Fait que tu analyses, tu réfléchis, tu médites, tu réponds, puis des fois, ça fait pas l'affaire à l'autre, mais qu'est-ce que tu veux, c'est pour l'édification que tu le dis. Bien, dans 1 Corinthiens 5, 12 à 13, ça nous dit, « Qu'ai-je en effet à juger? Ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Il dit, « Ôtez le méchant du milieu de vous. » Ça veut dire que le jugement peut aller quand même loin. Si la personne est dans le péché, puis elle fait des méchancetés, dans l'autre verset, il disait, il faut lui fermer la bouche. Mais si les personnes ne se repentent pas, qu'est-ce qui va arriver? Ils vont se faire jeter dehors de l'Église. Puis c'est ça que Jésus a enseigné à ses disciples. Si tu vois ton frère qui a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, t'as sauvé ton frère. S'il t'écoute pas, vas-y qu'un autre témoin. S'il t'écoute pas, dis-le à l'Église. Puis s'il écoute pas l'Église, mais qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain, il va être jeté hors fraternité. Ça, c'est la discipline. Quand le péché est dans l'Église, on ne peut pas tolérer ça. Il faut réagir. Et c'est ceux du dedans qu'il faut juger. C'est ça que l'apôtre Paul, quand il a analysé l'apôtre Pierre, c'était pas pour le condamner, mais c'était pour le reprendre, pour qu'il se repente. Puis en fin de compte, il a écouté, parce qu'on va le voir plus tard. Souvent, Paul il insiste que nous devons toujours les ramener à la vérité de l'Évangile. Si je vous prêcherai des mentries, je vous emmènerai dans le mensonge. Si je sors des versets, puis mes déclarations sont appuyées avec des versets, mais c'est pour vous amener dans la vérité. C'est ça que je fais quand que je prêche. J'essaie toujours de baser mes déclarations avec des versets. Mais vous autres aussi, c'est la même affaire. Si vous voulez ramener quelqu'un dans la vérité, il faut que tu te serves d'un verset. Parce que si tu fais juste dire des idées, c'est encore ton opinion. C'est une opinion, une idée. Mais un verset, c'est la parole de Dieu. Voyez-vous? Dans 2 Timothée 4:2, Paul a dit à Timothée, prêche la parole. C'est la Bible qu'on doit prêcher. Des versets, des vraies affaires. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprends. Censure. Ça, censurer, c'est quand quelqu'un dit un mauvais mot, puis tu le reprends tout de suite pour fermer ce mot-là, pour lui fermer cela, boucher ça. Mais c'est censurer. C'est effacé comme ce qui vient d'être dit. Exhorte avec toute douceur et en instruisant. Oui, c'est vrai que l'Église appartient au Seigneur. C'est vrai, on est des brebis rachetées du Seigneur. C'est son sang qui nous a rachetés, qui a fait qu'on appartient au Seigneur. Chacun de nous, on appartient au Seigneur. C'est vrai que l'Église appartient au Seigneur, que le Seigneur peut nous enseigner, ça c'est encore vrai aussi, tout le monde se fait parler par le Seigneur d'une manière ou d'une autre. Mais il veut que nous soyons des outils de redressement vers la vérité, chacun de nous. Il dit, tu vois ton frère qui a péché, il ne dit pas d'aller voir le pasteur, il dit, va et reprends-le. Il veut qu'on soit des outils de redressement. Si on voit quelque chose qui marche pas, on y va et on y parle avec douceur et en instruisant. C'est ça qu'on a lu tantôt. Dans Tite 2, les versets 14 et 15, « Le Seigneur s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité puis de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui. » Puis zélé pour de bonnes œuvres, voyez-vous, c'est ce que je vous disais. On a été rachetés par Jésus, on appartient à Jésus, puis il nous redresse lui-même, Jésus. Purifié par lui, zélé pour les bonnes œuvres, hein, par Jésus. Mais l'autre verset après, il dit, « Dis ces choses, exhorte et reprends avec une pleine autorité. » Voyez-vous, on appartient au Seigneur, on a été rachetés par le Seigneur, c'est le Seigneur qui nous purifie et qui nous remplit de zèle, mais entre nous, il dit « exhorte, reprends », puis avec une pleine autorité. Voyez-vous, il y a le travail que le Seigneur, parce qu'on appartient au Seigneur, il y a le travail que le Seigneur va faire, puis il y a le travail que nous devons faire ici, entre nous, pour s'amener ensemble à rester debout jusqu'à la fin. Pourtant, ce qui s'était passé était quand même, à première vue, superficiel. L'histoire que je vais vous raconter à propos de l'apôtre Pierre, qu'est-ce qu'il a fait? Quand tu regardes ça, il n'y avait rien là, tu sais, dans un point de vue humain, il n'y a rien là. Il y a bien plus pire que ça, des fois, dans une église. Mais à cause qu'il est l'apôtre Pierre, il ne pouvait pas se permettre de dire des affaires de même ou d'agir comme cela. Il représente. C'est un apôtre, un des premiers piliers du Seigneur, un des principaux piliers de l'Église de Jérusalem, l'Église du début. Dans Galates, le chapitre 2, les versets 12 et 13, le Paul y raconte ce qui s'est dit, ce qui s'est fait. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, parce que Jacques, le frère du Seigneur, il était comme le plus important personnage dans les 12 apôtres. Lui, il n'était pas un apôtre. Il était un des disciples, un ancien dans l'Église, mais c'est lui comme qui il avait de l'air à lancer shot. Parce que ça dit, ces personnes-là, ils ont envoyé par Jacques. Jacques, il avait une autorité. Puis Pierre-Jean-Jacques, ce Jacques-là, lui avait été assassiné. Fait que c'est Jacques, le frère du Seigneur, qui était là. Bon, les personnes ont envoyé par Jacques, des disciples, ils mangeaient avec les païens. Puis quand ils furent venus, ils s'esquivaient. On parle de Pierre. Il se tint à part par crainte des circoncis. Ça veut dire que avant que les envoyés de Jacques arrivent, l'apôtre Pierre mangeait avec les païens. Tout est beau, il n'y a pas de différence entre nous. Les disciples de Jérusalem arrivent, envoyés par Jacques, là, whoop, ils s'y retiraient, puis ils se donnent à part. C'était pas une grosse affaire. Oui, des chrétiens païens dans cette église-là. Mais ils ont eu peur parce qu'il y avait encore la différence dans le peuple juif. Ils ont toujours vu les païens comme des impurs, des non-circoncis, des impurs. C'était des personnes qui, moralement, ils se tenaient pas avec eux autres. Puis s'ils allaient au marché et achetaient des affaires, ils faisaient des cérémonies de rituels de purification. Parce qu'il avait touché à des choses un peu, puis là, il arrivait chez eux autres, il est allé un peu. Mais ça, c'était la mentalité juive. Il y avait encore un peu de cette mentalité-là en dedans d'eux autres. Non, c'était pas des païens. Oui. Il mangeait avec les païens. Puis quand il fut venu, il s'esquiva, puis se tient à l'écart par crainte des circoncis. Ça veut dire quand l'autre gang est arrivée de Jacques, mais là, il s'est retiré pour pas montrer qu'il était chum avec les païens. Avec lui, les autres juifs usèrent aussi de dissimulation. De sorte que Barnabas, qui était le compagnon de service de Paul, Barnabas fut entraîné par leur hypocrisie. C'était pas une grosse affaire pour nous, peut-être qu'on n'aurait rien dit. Mais l'affaire était quand même une attaque directe à la sainte doctrine du salut par la foi en Jésus et non pas par la circoncision puis par les œuvres de Moïse. Les Juifs ils ont accepté Jésus au même titre que les païens ont accepté Jésus pour être sauvés. Des deux, il n'y a plus de différence quand tu es en Jésus-Christ. Puis commencer à démontrer qu'il y a encore une différence, c'est pas se défendre puis être droit pour la vérité. Fait que Pierre était répréhensible d'agir en hypocrite. Puis Paul s'est pas gêné, puis il l'a repris devant tous. Puis là, il explique dans la suite, il explique ce qu'il a dit. Ça, vous allez voir, on va peut-être la voir un peu plus tard. Mais Paul, il appelle cela de l'hypocrisie. Certains comportements peuvent paraître banals, mais peut conduire à de fausses doctrines. C'est pour ça que quand tu défends, quelqu'un dit carrément un mensonge, c'est bien plus pire. Là, c'est pas juste une petite hypocrisie, là, un petit mensonge. C'est on défend la sainte doctrine. Pourtant, l'apôtre Pierre était d'accord avec l'apôtre Paul pour dire qu'il n'y avait plus de différence entre les Juifs et les païens. Tous sont sauvés par la foi au même Messie. C'est ça que on l'a vu dans une autre étude antérieure, dans les Actes 15, les versets 10 à 11, que Pierre lui-même avait dit, « Maintenant, donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le joug des disciples un joug que ni nous, ni nos pères n'ont pu porter? Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ que nous croyons être sauvés de la même manière qu'eux. » Pierre l'avait dit, que c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ qu'on est sauvés de la même manière que les Juifs. Puis il dit, on lui mettra pas sur le dos un joug. Mais quand il s'en va voir par après, là, il était gêné d'être avec, puis il sortit. Mais là, c'était comme un affront à la sainte doctrine. Puis là, l'apôtre Paul le reprit. Pourquoi que vous pensez que l'apôtre Paul explique toutes ces affaires-là aux Galatiens? Parce que l'apôtre Paul est en train d'expliquer aux Galatiens qu'eux autres aussi est en train de retourner à la loi de Moïse, puis ils vont se faire reprendre eux autres aussi si, par Paul, parce que c'est son devoir de reprendre, c'est ce qu'il est en train de faire dans sa lettre. C'est un seul but. Le comportement de Pierre devra être pris afin que les païens se sentent dans le même chemin du salut en Jésus-Christ. Dans Galates 2, 14, l'apôtre Paul y donne son explication. « Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Céphas en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens, parce qu'il l'avait vu à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? » Fait que c'était pas encore clair dans la tête de l'apôtre Pierre qu'on doit abandonner, pas abandonner la loi de Moïse, parce que tu peux pas la transgresser, cette loi-là, mais c'était pas ça qui te sauve. Voyez-vous? Parce qu'il y a une différence, là. C'est un autre point. J'ai peut-être pas expliqué beaucoup là-dessus. La loi de Moïse est en cours là, ses commandements, puis je parle de toutes les choses, sauf que tout le système de sacrifice puis le système de morale a été réexpliqué par Jésus puis par les apôtres, mais d'une manière plus puissante. La sainteté est bien plus exigée dans le Nouveau Testament que dans l'Ancien. Quand il dit œil pour œil, dent pour dent, aujourd'hui c'est aime ton ennemi. Toute une différence. Fait que il y a des plus hauts standards dans la nouvelle alliance que dans l'ancienne, au point de vue de la morale. Puis au point de vue des commandements, ils sont encore là, ils ont tous été repris dans les... on a tous vu ça dans des enseignements sur les commandements, qui sont encore là, les commandements, puis sont amplifiés par le Seigneur. Comme un des commandements, il dit « tu ne feras pas adultère », mais dans le Nouveau Testament, il dit « même tes pensées... » Faut pas que tu penses en adultère. Bon, mais ils sont tous comme plus exigeants. Mais ils sont encore là. Ça veut pas dire qu'il faut plus que tu mettes en pratique. Non, c'est que tu te confies plus là-dedans pour être sauvé. Parce que dans la mentalité de l'Ancien Testament, c'était « faut que je mette en pratique la loi pour être sauvé ». Mais là, c'est plus ça. C'est qu'on a accepté une nouvelle alliance qui dit que tu es sauvé par la foi dans le Messie. C'est le Messie qui nous sauve. Jésus est mort sur la croix pour pardonner nos péchés. Puis c'est après ça qu'on est accroché. Puis c'est Jésus qui nous sauve. C'est plus la pratique de la loi. Sauf que dans mon chemin, je vais prendre garde de pas transgresser les commandements parce que là, je viendrai coupable de tous, comme Jacques le dit. Voyez-vous? Sont encore là. Mais nous, on vise un chemin encore plus parfait, de perfection que celle de l'ancienne alliance. Fait que, défendons la sainte doctrine, le salut par la foi en Jésus-Christ seul. Amen.